Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Serge Moati.
Bonjour.
Très heureux de votre présence à Bordeaux en un jour un peu
Oui,
particulier.
n'est-ce pas?
Hein? On aura peut-être
Certains
l'occasion.
disent que je vais succéder, mais
Voilà.
je
Hein?
démens,
Enfin, après,
je démens, je démens.
chacun en tire les leçons qu'il souhaite en tirer.
Non, non, en fait, non.
La présence de Serge Moati aujourd'hui à Bordeaux est motivée par la publication et la sortie de ce très bel ouvrage qui s'appelle Il était une fois en Israël. On va échanger tous les deux autour de votre livre, Serge Moati. Bon, je ne vous présente pas parce que vous êtes évidemment très connu en général et certainement du public présent
Je sais pas.
aujourd'hui. J'avais réfléchi et imaginé qu'on pouvait peut-être même commencer par un moment à la fois de recueillement, de réflexion ou de retour sur soi par rapport à un certain nombre d'événements, et précisément à un événement qui est survenu au début de cette semaine, c'est-à-dire la découverte de la profanation du lieu de mémoire qui a été pour Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois. Chacun, on va pas le faire, chacun peut, je pense, avoir ce moment en tête parce qu'on va avoir l'occasion de revenir avec Serge Moati sur un certain nombre de choses, et en particulier sur la fin de son ouvrage qui traite de la question de l'antisémitisme. En lisant le titre de votre livre, cher Serge Moati,
On dit jamais cher Serge.
oui, voilà, hein, c'est compliqué. En lisant le titre de votre livre, Il était une fois en Israël,
Oui.
un petit peu comme en anglais on dit Once upon
Oui.
a time, je me demande si vous n'auriez pas pu écrire Il était une fois, FOI, en Israël, au sens de il a existé une fois une espérance, une croyance dans Israël, et celle-ci aurait disparu puisqu'on serait à l'imparfait. Peut-être que vous avez pensé à ce jeu de mots en titrant. Est-ce que l'on peut dire que votre livre porte le témoignage de la nostalgie de l'Israël de votre enfance et de votre adolescence?
Bonsoir. Oui, j'ai beaucoup aimé Israël quand j'avais 12 ans. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas maintenant, mais quand j'avais 12 ans, je suis allé pour la première fois en Israël et je venais de perdre mes parents, mon père et ma mère. Et pardon, mais chaque fois que je parle de ça, ça m'émeut. Et j'avais un oncle là-bas que m'avait dit avoir connu,
Ben,
André
connu,
Semama, qui était
entendu.
un grand journaliste, mais bon, à l'époque, il n'était pas encore très connu. Et c'était en 1958. Et comme je venais de perdre mes parents, il m'a dit, viens, et je vais l'amener avec moi en Israël. Parce que là-bas, on sait traiter les orphelins. C'était une expression étrange. Je dis, c'est quoi traiter les orphelins? Je me suis dit, maison de redressement, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut dire. Non, il disait, non, après, il a pris un temps, il a dit des orphelins de la Shoah. Et je suis allé, bien sûr. Et je suis allé beaucoup d'étés de suite et beaucoup de vacances de suite, etc. Sortant de la pension où j'étais. Et j'ai adoré Israël de 58. J'ai adoré les kibboutz. J'ai adoré le sentiment d'incroyable fraternité, effervescence. Sentimentalement, j'étais très, très, très accroché et j'ai beaucoup aimé ça, oui.
Vous en parlez très bien,
Mais
puisque
oui, enfin.
page 13, justement, je me permets de vous lire. Si vous dites, vous écrivez ce que vous venez de dire, mais le texte est très beau. J'ai tout de suite adoré Israël, je me souviens. J'étais entouré de ces jeunes femmes bronzées qui m'avaient presque adopté. Pour elles, j'étais mignon. On dansait, on chantait, on s'embrassait, parfois même carrément avec la langue. Certaines, comme moi, avaient perdu leurs parents. Mais c'était dans des prisons aux noms imprononçables, Maïdanek, Buchenwald, Auschwitz, Bergen-Belsen. J'ai tout de suite compris que chez les Juifs, on perdait beaucoup ses parents et que cela nous rapprochait les uns des autres.
Oui.
Et vous dites qu'Israël, c'est un peu votre petit cousin, c'est une sorte de cadet, un cousin lointain. Il a 2 ans de différence par rapport à vous. Vous êtes né en 46,
Mais ne
Israël
le
en
répétez pas,
48.
hein. Oui.
De quoi avez-vous peur aujourd'hui pour ce petit frère qui a plus de 70 ans aujourd'hui et qui semble peut-être à tort surpuissant.
Vous y allez fort, là. Non, parce que c'est pas chronologique, là.
Non, du mais, tout.
Donc, okay. D'accord, bon. D'accord, parce que ça nous fait faire un bond.
Oui, mais c'est... Oui,
mais je vous remercie. Ça nous fait faire un bond et genre, va au fait, mon pote. C'est ça?
Je vous laisse répondre.
Non, non, mais bravo, quoi. C'est-à-dire que je vais vous faire une confidence. Une vraie confidence. Je suis plutôt de gauche. J'aimais bien l'Israël travailliste. Vraiment. Enfin, et j'aimais bien... j'avais un grand ami qui s'appelait Shimon Peres. Il me manque, comme il manque à Israël. Et j'aimais beaucoup Rabin aussi. Et ces gens-là ont fait, à mon avis, hein, je ne suis pas du tout un politicien ou un... Je suis un... ce qu'on appelle... Si j'étais en Israël, je serais un sioniste de gauche, disons. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, par exemple, à Oslo, 1993, Oslo 1, Oslo 2, où il y a eu reconnaissance mutuelle d'Israël et de la Palestine. On n'est jamais allé aussi loin vers la paix. La paix brûlée, elle était là, à côté, comme ça. Ça a donné quoi, en 95 ou 16, Netanyahou. Et du coup, les colonies de peuplement. Et les colonies, je crois pas, mais je savais pas qu'on allait aller aussi sec et aussi vite. Les colonies, je crois que c'est un des obstacles majeurs à la paix. Et je crois que aussi, Dieu. Et c'est un croyant qui vous parle. Dès qu'on met Dieu dans une table de négociation, ça ne peut pas marcher. Nous sommes là parce que Dieu l'a voulu, disent les uns et les autres. Les islamistes d'un côté, Hamas, Gaza, le FPLP avant, etc. Bon. Et de l'autre côté, des gens que j'ai rencontrés pour ce bouquin et pour un film que j'ai fait pour Arte là-dessus, qui sont ce qu'on appelle des colons. Alors, comme vous le savez, en juillet 2018, il y a une loi qui légalise la colonisation. Qui légalise. C'était voté à la Knesset, Assemblée nationale, par une majorité de 62 contre 35, je crois, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, une vraie majorité. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus le caprice, comme ça, de gens, mais c'est quelque chose de fort, d'inscrit, maintenant, dans la loi fondamentale d'Israël. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si, mais... alors on va approfondir ce que vous dites, et en particulier ce qui apparaît au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres, c'est-à-dire cette présence de plus en plus importante de Dieu à la table de négociation. Mais avant qu'il y ait Dieu à la table de négociation, il y a un autre élément, c'est la terre. Et on a le sentiment que le rapport à la terre, dans cette partie du monde, est un rapport qui est lui aussi extrêmement complexe. Alors, le livre est un livre très bien documenté. Il y a une bibliographie tout à fait remarquable, oui, aux meilleures sources. Je dis aussi que le livre accompagne, enfin, c'est le contrepoint d'un documentaire que vous avez réalisé pour Arte,
France 5.
Et je voudrais peut-être c'est la première partie de votre livre, qu'on évoque un certain nombre de figures, parce que ça me semble assez indispensable, figures du sionisme ou de l'histoire d'Israël, parce que là aussi, vous les avez découverts au fur et à mesure, d'ailleurs, de votre adolescence. Hein, la première figure dont vous pourriez peut-être nous parler, alors je vous laisse le faire dans la longueur ou la densité que vous voulez, c'est Theodor Herzl, le père du sionisme. Vous dites, c'est très drôle, que quand vous étiez jeune au kibboutz Regavim, vous étiez un peu jaloux du succès qu'avait Theodor Herzl auprès des jeunes femmes. Hein. Mmh.
J'ai toujours eu comme ça des...
des rivaux.
Oui,
des rivaux. Bon. Alors, Herzl, en quoi est-ce qu'on peut dire, c'est une histoire fabuleuse, Herzl, comme vous êtes un grand conteur et qu'on aime vous écouter, racontez-nous un peu votre Herzl à vous.
Mon Herzl à moi, c'était un homme qui était parfaitement journaliste connu et correspondant d'un journal autrichien à Paris, qui était hyper assimilé, comme il ne faut pas dire. Enfin bon, on peut dire, allez. Il était pas croyant ni quoi que ce soit. Hein. Et je crois qu'il y a des gens de sa famille à Bordeaux oui. enterrés ici. Oui. J'ai reçu des photos de leur tombe, là, des amis à moi qui savaient que je devais venir ici. Ça m'a beaucoup touché, je ne savais pas, moi, figurez-vous, je ne savais pas. Donc c'était un homme comme ça, et qui a été bouleversé, comme vous le savez, par le procès Dreyfus qu'il a couvert pour son journal. Je n'ose pas le dire le titre en allemand, parce que je suis incapable de parler allemand. Blocage. Donc, j'ai découvert ça comme ça. Et il commence à écrire ce chef-d'œuvre incroyable, qui est l'État des Juifs. L'État des Juifs et pas l'État juif. On revient à la première question que vous avez bien voulu me poser. L'État des Juifs, c'est-à-dire que c'est pas seulement un État juif au sens bon. Et c'est pour lui, c'était un État des Juifs et démocratique. Et étrangement, cet inventeur, enfin, je sais pas si on dit inventeur, enfin celui qui a fondé comme ça cette écriture. Avait dit quelque chose à un moment, il est pour la solution ougandaise. Vous savez, le Congrès juif mondial hésite, il discute. Faut-il que ça soit en Israël? Pas forcément. Est-ce que et Herzl était pour la solution ougandaise? Pourquoi?
Proposé par les Britanniques.
Proposé par les Britanniques parce qu'ils savaient pas quoi faire des Juifs. Hein. Bon. Et la solution ougandaise, c'était bien, c'était peinard, c'était loin. Il y avait que des Noirs. Bon, allez, c'est pas grave, on va leur foutre les Juifs. Et ils vont se débrouiller ensemble. Et donc, il dit ça au Congrès juif mondial. Accablement, parce qu'il y avait quand même dans ce Congrès juif mondial des gens qui pensaient quand même à la Terre Sainte. On va revenir après à la Terre Sainte. Oui. Et donc, il a été mis en minorité, Herzl. Mais ils ont quand même décidé le compromis, vous savez, genre compromis. On va envoyer 6 observateurs aller voir ce qui se passe en Ouganda. Ils sont revenus, les malheureux, absolument dépités. Mais enfin, l'Ouganda aurait pu être une sorte d'Israël. Enfin, bon. Enfin, l'histoire ne raconte pas. Et moi, j'aurais écrit un bouquin qui s'appelle « Il était une fois en Ouganda ». Mais il y avait quand même... Et c'est... Vous savez, moi, vous savez comment j'ai commencé, moi? J'ai commencé à sentir que j'étais juif.
Elle nous racontait Monique.
Oui.
Parce que Monique, oui, mais Monique elle fait l'ouverture de ce livre, ouais, et elle fait aussi l'ouverture de ce livre.
Oui, comme quoi, je rabâche, ou je...
Non, mais racontez-nous l'histoire de Monique.
Non, mais je ne savais pas du tout. J'étais en Tunisie, hein, je suis né en Tunisie. Oui, je ne suis pas Askenaz,
d'accord.
Mais je suis né en Tunisie, et j'étais bien en Tunisie. Et j'étais entouré de copains arabes, chrétiens, enfin bon, etc. C'était Tunisie, protectorat français. Et je suis tombé, toujours des histoires de filles, je suis tombé vachement amoureux d'une fille qui s'appelait Monique, qui avait 5 ans ou 7 ans, ça dépend des livres. J'ai remarqué.
Ah, ça dépend de la durée de la liaison aussi.
Non, c'était une liaison courte. Et elle me dit un jour, comme ça, elle était très, 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 très mignonne, autant que je m'en souvienne, hein, mais méchante. Et elle me dit je ne vais plus jouer avec toi, je ne veux plus qu'on se voit. Je lui dis pourquoi. Enfin, déjà, j'étais pleurnichard. Hein. Pourquoi? Il me dit parce que tu vas aller en enfer. Je comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire, mais j'ai dit pourquoi. J'avais de l'enfer une conception un peu vague quand même. Hein. Je savais pas très bien ce que c'était. Pourquoi je vais aller en enfer? Parce que tu as tué Dieu. Ah ah. Et je ne me souvenais absolument pas de ce meurtre que j'avais commis. Donc c'était très embêtant. Vous vous rendez compte, non seulement assassin, mais amnésique. Donc j'étais très, très embêté. Et il me dit, oui, tous les juifs ont tué Dieu, et toi, t'es juif, etc. Donc, au revoir, je peux plus te voir, etc. Elle est partie en se dandinant, comme ça, sa jupe écossaise volante au vent, et ses escarpins vernis. C'était très mignonne.
Comme disait Jacques Brel, ouais, la rupture bête et brutale.
La rupture, oui, mais qui m'a valu un sacré truc, parce que j'ai traversé la rue en larmes, je suis allé voir mon père qui était de l'autre côté de la maison, et il me dit, mais qu'est-ce que tu as à pleurer, mon fils? Je dis, je vais aller en enfer. Parce que je suis juif, elle m'a dit que j'étais juif. Bah oui, on est juif, oui. mais on va pas aller en enfer. Il faut pas. Et il met un petit temps. Il est en train d'écrire sa chronique pour un journal. Il était journaliste connu. Et il me dit, tu sais, j'ai connu l'enfer, moi. Papa, tu as connu l'enfer? Oui. On m'a mis avec d'autres dans ce qu'on appelle quoi, papa? Un camp. Un camp, quoi, un camp de prisonniers, parce que tu avais tué Dieu, toi aussi? Dis non. Ah bon, j'étais soulagé, parce que quand même, si ça se transmet en plus de père en fils, l'assassinat. Et il me dit non, un camp de concentration. Et c'est là que j'ai découvert ce jour-là qu'il y avait des filles méchantes, Monique, et qu'il y avait surtout un peuple auquel j'appartenais, qui était un peuple qu'on avait amené pour les tuer. J'avais 7 ans, je pense. Et puisque j'avais compris, quoi. Et puis en plus, il cachait des photos qu'il avait ramenées des camps, et j'avais pas le droit de regarder. Un jour, j'ai vu, en surprenant, une femme enceinte avec une baïonnette, un mec qui lui mettait une baïonnette dans le ventre. Et c'était ça qu'il voulait pas que je voie. Il avait ramené, parce que comme il était journaliste, il avait ramené plein de photos des camps, je sais pas comment il avait fait pour les trouver. Et voilà. Donc, et c'est cette rencontre avec le judaïsme, sans aucune trace de religion à la maison. Hein. Mon père était juif, socialo, franc-mac. Non, il n'était pas religieux. J'ai jamais fait Shabbat, j'ai jamais eu un kippour ou un. Bon, enfin, bon, peu importe. Et donc, j'ai découvert ça le même jour qu'il y avait des gens qui ne nous aimaient pas du tout. Parce qu'en plus, on avait les mains tachées du sang de Dieu. C'est quand même embêtant. Après. Il y a eu l'histoire du départ de mon oncle, oui, dont on parlait, et j'entends parler pour la première fois de terre promise. Terre promise, c'était extraordinaire. Terre promise, et quand on lit la Bible, ce qui est mon cas, pas grâce à Monique, hein, mais après, c'est une drôle d'histoire d'être juif, quand même. Une drôle d'histoire parce que on passe son temps quand on est dans le désert avec Moïse, là, fils de Pharaon, quand même, et bègue. Ce qui n'arrange pas l'affaire. Il parle sans arrêt. Allez, on va aller vers la terre promise, tout ça, etc. Et les types en bas, le peuple en bas de la montagne dans laquelle ils montent, ils voient d'abord un dieu invisible. Enfin, c'est quand même très embêtant, un dieu invisible, alors qu'il n'y avait que des statues dans le monde de l'époque. Il n'y avait que des statues. Et qui parle d'une terre où il faut aller absolument. Et le peuple en bas regrette d'une certaine façon l'Égypte. Et ça, je pense qu'il y a une métaphore extraordinaire d'un dieu qui est peu sympathique. Peu sympathique. Il faudra attendre la secte des juifs dissidentes, un peu d'une certaine façon, qui s'appelle le christianisme, oui. Au départ. Et nous, on était face à un dieu pas sympa, qui fait pas de gestes amoureux, hein, fait pas de gestes amoureux, et qui nous parle sans arrêt de « un jour, on ira là-bas », etc. Et d'ailleurs, ce dieu est tellement dur qui va tuer Moïse avant qu'il n'arrive en terre promise. Et pour moi, je trouve que là, c'est le corps du truc, d'une certaine façon. Cet exode-là, cette façon d'être dur comme ça par rapport au peuple. Et c'est ce que j'adore dans le judaïsme. J'adore. J'adore ça. Je suis très content d'être juif. Ça vous paraît bizarre, hein, vous pouvez me regarder comme si j'étais un grand malade, mais je suis très content. Je suis pas fier, hein, je suis content. J'adore ce rapport-là avec ce Dieu pas sympa, avec lequel on combat d'une certaine façon. J'adore ça.
Alors, je reviens à la terre promise, parce que c'est évidemment, oui, la question qui porte le sionisme.
Bien sûr.
Theodor Herzl, s'inscrivant dans cette réalité de l'année prochaine à Jérusalem. Hein,
L'an prochain
à Jérusalem. Ouais. Et dans le livre, page 33, toujours au sujet de la terre, vous évoquez Bertha, qui témoigne dans votre documentaire Un kibboutz en Galilée, co-réalisé en 98 pour Arte avec Ruth Zilberman. Ouais. Et à son sujet, vous dites, pour les pionniers d'Israël, il était nécessaire d'en finir avec tout ce qui avait été l'interdiction faite aux Juifs. Dans leur prochaine terre, les Juifs n'auraient plus besoin de s'intégrer, ce qui leur était de toute façon sans cesse refusé. Ils ne seraient plus colporteurs, banquiers ou petits boutiquiers. Non, là-bas, ils travailleraient la terre. Et quand on connaît Israël, comme il se trouve que j'ai cette chance et ce bonheur, ce qui est très frappant, compris quand on est au Musée national à Tel Aviv, etc., c'est de voir comment les pionniers ont d'abord été des cultivateurs de la terre. Et c'est ce rapport à la terre, parce que je pense que c'est quelque part un des fils qu'il faut suivre pour comprendre, y compris peut-être les colonies d'ailleurs aujourd'hui, dans cette dimension de l'attachement au sol. Alors, comment vous l'expliquez, ça? Est-ce que c'est une façon de rompre avec le mythe du juif errant,
oui, je pense, oui.
Qui a été coupable quelque part de tuer son frère? Comment on peut traduire ça?
Je suis ici chez moi, je fais pousser des trucs.
D'accord.
Je schématise à outrance, là. Mais je pense que c'est ça. Enfin, je pense que c'est extraordinaire de pouvoir dire cette arbre, je l'ai planté. Et c'était vraiment rompre avec l'image du juif, le juif sus, les juifs des antisémites,
le cosmopolite.
Oui. C'était vraiment, je suis un homme nouveau.
D'accord.
C'était le mythe, le grand mythe de l'homme nouveau.
C'est pour ça que c'est un socialisme très particulier.
Oui,
le socialisme
oui.
des kibbutz, qui est un socialisme agrarien.
Oui, oui. Et puis, c'est un socialisme qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a fait dans les pays de l'Est ou avec Moscou, je ne sais pas où. Enfin, bien sûr que non. Mais c'était fraternel. Enfin, c'était, il n'y avait pas de dictature, il n'y avait pas de rien. C'était vraiment un homme nouveau qui naît dans un peuple, qui va faire un peuple nouveau. Vous voyez ? Et le pire de tout ça, enfin, je sais pas, non, là, je passe à autre chose. Donc, non, je vous laisse continuer.
Non, mais au contraire,
Non, le pire, c'est la phrase de Koestler. Je sais pas si il écrit Arthur Koestler dans la tour d'Ezra. Il dit l'histoire d'Israël, c'est incroyable, c'est un peuple. A donné à un autre peuple le droit de a fait des promesses à un autre peuple de s'installer dans une terre où il y avait encore un peuple. Et c'est on est là, il est à l'origine de tous les problèmes qui se sont posés par la suite, mais il n'empêche que ça a été quelque chose de magnifique.
Alors là, vous faites référence à la fameuse déclaration Balfour, etc.
Horrible conversation, déclaration Balfour, horrible 1917. Parce qu'on croit que c'est formidable, Sa Majesté envisage favorablement l'installation des Juifs en Palestine, etc. Déclaration Balfour. Les Juifs, qui sont, contrairement à ce que disent les antisémites, plutôt naïfs et benêts, y croient. Et commencent les alias. Parce que le premier alias commence, la première alias forte, enfin, commence après la déclaration Balfour. Hein. Et vraiment, les Anglais. Depuis le Brexit, je leur en veux beaucoup en plus. Ils ont complètement pas fait ce qu'il fallait. Enfin, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. C'est d'interdire et de faire le blocus de ce qu'on appelait la Palestine pendant toute la préparation de la Shoah et pendant la Shoah. Et ça, quand on imagine ça, c'est épouvantable. Là où ils auraient dû ouvrir, ils ont bloqué.
Alors,
et ça, enfin, je m'excuse là, je leur en veux énormément.
Parmi ceux qui font,
ça leur fait une belle jambe, mais je leur en veux énormément.
Parmi ceux qui font l'alia, j'allais dire 11 ans avant la déclaration Balfour, il y a un personnage qui mesure 1m53, c'est tout à fait étonnant. Il s'appelle de son nom polonais David Grun, et il est né
plus connu sous le nom
de David Ben Gurion,
bien sûr. Hein.
Et il est né dans c'est pas un petit village, hein, Ponsk, c'est comme ça que ça se prononce, c'est une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Varsovie. Et pour la petite histoire, je sais pas si vous le savez, mais c'est aussi la ville natale de Nathan Darty, le fondateur des magasins Darty.
Ah non.
Bon, voilà.
C'est juif quand même.
Quand les gens iront chez Darty, ils sauront que le fondateur est lui-même compatriote de Ben Gurion. Bon, à 20 ans, Ben Gurion, donc en 1906, arrive en Israël. Et c'est un personnage qui est quand même tout à fait extraordinaire. Bon, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller dans le Negev et qui vous avez l'occasion d'y aller, allez sur la tombe de Ben-Gurion, c'est extrêmement émouvant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Ben-Gurion?
Qu'il avait peur, jamais peur sur le fond, mais peur d'avoir la minorité le 14 mai 48, de ne pas avoir la majorité du congrès juif autour de lui. Parce que il ne savait pas. Il y avait plein de gens qui n'acceptaient pas le plan de partage de 47, qui a eu, comme vous le savez, le 29 novembre 47. Et il avait très peur que ça recommence. Parce qu'il y avait plein de gens dans son congrès qui disaient « Mais c'est des frontières impossibles. C'est trop petit. Il faut prendre le grand Israël, disait-il déjà. » Et lorsqu'il y va, je sais ça très bien par la fille de Shimon Peres, avec laquelle je suis assez lié, Et lui, enfin son papa, et Ben Gurion, ils vont presque à reculons le 14 mai 48. Ce que j'ai appris en parlant et en filmant, c'est-à-dire qu'ils se disent, et si on n'a pas la majorité, pardon, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ils se disent, allez, on ose quand même, on y va. Si on ne prend pas ce qui se présente, ça ne se fera jamais. Vous voyez? Et donc, c'est un homme prophétique, d'une certaine façon, Ben Gurion. Mais prophétique, mais en même temps réaliste. Enfin, c'est-à-dire qu'il... tant pis, il ose, il y va. Et ça, je trouve ça magnifique.
C'est quelqu'un d'authentiquement de gauche qui, qui a été formé par le MAPAI, enfin le
le Parti travailliste
et la relation à l'Estade Route qui est la grande centrale syndicale. Hein. Ce qui est aussi passionnant chez Ben Gurion, c'est que je pense qu'il fait partie de ceux qui pensent que la paix est possible avec les Arabes.
Bien sûr, oui.
C'est ça.
Bah, la déclaration d'indépendance en 48, c'est égalité de religion, de culture, de tout ça. Enfin, c'est écrit dans la déclaration d'indépendance de 48, le texte fondateur, si vous voulez, qui est remis en question ces temps-ci.
Vous vous racontez que quand vous allez pour la première fois en Israël, donc 58, tonton Loulou, donc André chez maman, hein, je pense que le nom évoque quelque chose, hein, quand même pour certains d'entre vous.
Ils étaient correspondants du Monde et de l'RTF là-bas.
Ils sont installés dans un village. Ou à côté des Arabes, parce que ça leur rappelle la Tunisie.
Oui, bien sûr.
Et là, il y a une forme de communauté de destin, en quelque sorte. Alors, que quand même, les guerres vont régulièrement éloigner. Et la première d'entre elles, c'est la guerre d'indépendance.
Bien sûr.
Vous en parlez avec des mots très forts. Hein, dans votre livre, vous évoquez en particulier ce village...
Der Yassine,
où là il y a un véritable massacre. Hein, oui. Vous dites c'est une tache noire, une tache de sang sur dans l'indépendance. Bon.
Oui, mais en même temps, quatre pays arabes envahissent,
attaquent
Israël le lendemain de la déclaration d'indépendance. Bienvenue au club. Le lendemain de la déclaration d'indépendance, quatre pays arabes chouk. Et ça va durer du 15 mai à fin juillet.
Avec, on le sait peu, mais énormément de tués du côté israélien, plus de 6 000 morts hein, côté des combattants israéliens, alors qu'il n'y a pas d'armée en plus. Petit à petit, la Tchécoslovaquie est un des rares pays à fournir des armes, et la Roumanie aussi.
Oui, et puis il y a eu le travail inlassable de toujours parler de lui sans arrêt, de Pérez.
Alors on va parler de Pérez justement, parce que vous dites ça a été mon ami, vous en parlez avec des mots tout à fait émouvants. Il a un destin qui est assez fabuleux. Y compris d'ailleurs dans la première partie de sa vie, c'est le monsieur sécurité d'Israël. Oui. Il va acheter des armes partout. Il est pratiquement le patron du programme nucléaire israélien qui a été fait avec les services français. Hein. Qu'est-ce qu'il vous a raconté au soir de sa vie, de son parcours, Pérez?
On fait la paix avec son ennemi.
D'accord.
On fait la paix avec son ennemi. Avec un ami, c'est pas la peine, tu en paix. Bon. On fait la paix avec son ennemi. Et il parlait de ça avec beaucoup, beaucoup d'émotion. J'étais allé dîner un Shabbat chez lui. Il était vieux, hein. Il était en train de terminer son tout.
Sa présidence.
Oui. Ouais. Mais il vivait toujours dans une sorte de banlieue de Tel Aviv. Il considérait qu'on était dans une impasse, quoi. Dans un truc... on ne sait pas comment faire. Donc il était très tarabusté par ça. Et à part ça, il était marrant. Il racontait des vannes, et ça j'adore quand on raconte des vannes. Et il était, c'était un intellectuel. Il avait le sens du mot, du truc comme ça. Il parlait un français improbable et moi un hébreu épouvantable. Mais quand même, on se comprenait un peu, beaucoup. Et le problème qu'il a eu avec Rabin, c'est que Rabin était un militaire et pas un intellectuel.
Parce que leur relation
était très tendue. Hein. Très tendue.
Au sein du Parti travailliste, elles sont pas bonnes. Mais en même temps, ce qui se passe le 4 novembre 1995, au moment de l'assassinat de Rabin, vous rapportez cet adieu que Pérez fait à Rabin sur son...
Shalom Khaver, il lui a dit. Salut camarade.
Et ça, c'est extrêmement émouvant. Oui. Rabin, vous l'avez moins connu?
Un peu moins.
Mais
oui,
par contre,
non, beaucoup moins.
Par contre, vous avez un ami qui s'appelle Camille Gillon, Oui. Le patron dessine bête et vous en... et il témoigne dans le livre, vous le faites parler.
Oui, c'est une rencontre formidable. Enfin, je dîne en famille là-bas et je leur raconte que j'ai un projet, etc. Bon. Et je dis, j'aimerais bien rencontrer les gens du Shin Bet, etc.
Il faut dire ce que c'est que le Shin Bet, parce que...
C'est les services de
sécurité intérieure.
Sécurité intérieure, mmh. Contrairement au Mossad, qui est ouvert, c'est l'équivalent de GSI, des GSE, mmh. Si vous voulez. Bon, ils me disent, bon, bah oui, je comprends que tu as envie de les rencontrer, mais enfin, bon. Enfin, bon, on passe à autre chose. Et le lendemain matin, il était 7h du matin, j'étais dans mon hôtel à Tel Aviv, et « Allô, Serge ?» C'est Carmi. Carmi, je me dis, qui c'est ce mec? Carmi Guillon, tu veux me rencontrer? Je dis oui. Bon, alors je l'ai rencontré. Et c'était lui qui était donc chef du Shin Bet au moment de l'assassinat de Rabin, oui. 4 novembre 95.
Il est à Roissy, il est sur la route. Et
oui, parce que son drame à lui, c'est que il a raté, il n'a pas, comme il me dit, je n'ai pas pu sauver mon père. Il adorait Rabin. Et là, ce qui a scellé notre amitié, si j'ose dire, c'est qu'il avait perdu son père et sa mère à 11 ans, lui aussi, comme moi. C'est étrange de rencontrer un mec qui vous dit ça. Et donc, alors on s'est embrassé comme du bon pain. Et il s'en veut toujours de ne pas avoir été là. Ne pas avoir fait son boulot de chef du Shin Bet. Et pour lui, pour Carmi Guillon, comme après pour Ami Ayalon, mmh. Celui qui lui a succédé à la tête du Shin Bet, c'est pour eux le grand virage d'Israël, l'assassinat de Rabin. Grand virage, c'est-à-dire qu'un juif peut tuer un juif. Cette phrase-là, elle est revenue sans arrêt dans mes entretiens. Un juif peut tuer un juif. C'est-à-dire qu'on a franchi le truc terrible. Et tous les deux considèrent que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Enfin, ce sont des gens, des progressistes, si j'ose dire. Enfin, des progressistes. Gauche-droite en Israël, ça veut dire souvent pour la paix ou aux autres de faire les premiers pas, on s'en fout, etc. Hein. C'est souvent pas la même chose qu'ici. Quoiqu'ici, ça devient un peu bizarre aussi. Mais enfin, là-bas, ça veut dire vraiment pour la paix ou. C'est la faute des Arabes et puis ils font chier, enfin je sais pas quoi, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et Bibi quoi. Bon. Et ces deux-là, c'est-à-dire comme la plupart des généraux israéliens, mais c'est ça qui est curieux, la plupart des généraux, la plupart des gens du service de renseignement, que j'en connais pas mal, quoi, sont pour la paix et sont pour le retrait des colonies. Ils disent tant qu'on a ce truc-là, on ne peut rien faire. Vous voyez, et ça, je ne sais pas si ça se sait assez à l'extérieur. Enfin bon, voilà. Donc, enfin bon.
À propos de l'assassinat de Rabin, l'auteur, hein, oui. Des coups de feu, Yigal Amir,
ah oui.
Est un type
sacré mec.
Qui,
hein.
Est un type qui dit que dans le livre, vous le citez, hein, ce n'est pas mon doigt qui a appuyé sur la gâchette.
C'est Dieu.
C'est le doigt du peuple d'Israël. C'est tout le peuple d'Israël qui a fait
oui,
ça.
Oui. Il était un admirateur de Baruch Goldstein.
Il faut dire qui était Baruch Goldstein. Quand même.
C'était celui qui a tiré dans la mosquée de Hebron.
Au tombeau des patriarches.
Au tombeau des patriarches.
Voilà. Donc c'est là.
Ça, 25 c'est, morts. Hein.
Ça, c'est un massacre réalisé par cet orthodoxe.
Oui, oui.
Qui appartient au gauche, enfin au bloc de la foi.
Hein, oui. Hein.
Alors, on peut pas dire.
Et il avait le même sourire, me fait remarquer ouais. Quelqu'un. Je crois Carmi Guillon. Il avait le même sourire que les photos, vous savez, des djihadistes, des trucs comme ça.
Ouais.
Je sais pas comment dire. Genre, mais quoi? Je triomphe en fait en tuant. Ouais. Il avait jamais eu un mot de remords ou de jamais, jamais. Comme les djihadistes, vous ne les entendez pas dire « je suis désolé ».
Alors, on ne peut pas dire que cette arrivée du Gouche Emunim ou du bloc de la foi, de ce que Grisalmer appelle les hommes en noir, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas été détectée, identifiée, documentée dans les années 90,
bien sûr,
tout le monde les voit venir.
Mais oui, mais alors on est dans un système, comme vous le savez, parlementaire. Là-bas.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, oui, le système institutionnel israélien, avec cette représentation proportionnelle
intégrale, on n'arrive jamais au pouvoir seul,
fait que vous avez un parti de deux voix, à deux sièges, comme Ch'as, par exemple, qui peut faire et défaire les majorités.
Oui, voilà. Et qu'on soit de gauche ou de droite, enfin, travailliste ou Likoud, enfin, pour parler clairement, on est obligé de faire alliance. Et alliance avec qui? Avec les orthodoxes en Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pas seulement à droite, hein, à gauche aussi.
Oui, tout à fait.
On trouve des orthodoxes de gauche. Bon.
Enfin, c'est des laïcs. Des laïcs orthodoxes.
Ouais. Oui, oui, c'est étrange.
C'est très étrange.
Pas totalement orthodoxe.
Oui, c'est ça, voilà. Oui.
Et là, c'est le cas. On met Dieu au milieu.
Alors, il y a eu d'autres traumatismes que l'assassinat de Rabin. Il y en a un sur lequel vous affrontez, j'allais dire, la tragédie en face, avec beaucoup de courage aussi. C'est ce qui s'est passé à l'occasion de Chabra et Shatila.
Ah oui.
Et en particulier, vous citez Valls avec Bachir. Est-ce que vous pouvez revenir, non pas sur les événements, mais
là,
sur le choc que ça a provoqué aussi en Israël? Parce que ça a quand même été considérable.
Une immense manifestation anti-Sharon.
Voilà.
Sharon, c'était l'opération Paix en Galilée qui avait été lancée. Et Sharon a regardé avec ses troupes israéliennes le massacre de Chabra et Shatila.
On est le 16 septembre 1982.
Oui, hein. Et ce n'est pas les Israéliens qui ont fait le massacre. Hein, attention. Hein. Oui, oui, c'est les phalangistes. Et donc, mais simplement, ils ont regardé. Ils ont regardé. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais ils n'ont pas tué eux-mêmes. Hein, c'est important. Et ça a été un massacre. Mais alors, j'ai pas envie de raconter. Enfin, c'est affreux. Enfants, femmes.
Mais ça normalement, ça aurait pu, par exemple, et ça aurait dû provoquer la fin de la carrière de Sharon. Or, il revient.
Il revient.
Près de 20 ans plus tard.
Hein, oui.
Et dans des circonstances terribles, puisque il va provoquer une intifada, il va même être premier ministre.
Bien sûr. Bien sûr. Et il va vivre comme Louis de Funès dans Hibernatus, dans le coma pendant
très
longtemps.
C'est la fin de la vie de.
Enfin, d'accord. Mais c'est-à-dire qu'il est, il vit quoi. On lui en veut pas, alors qu'il y avait une manifestation monstre sur les places de Tel Aviv contre lui. Ça fait rien.
C'est à partir du milieu de votre livre qu'on voit effectivement que Dieu est présent tout le temps,
oui,
désormais. Est-ce que vous pensez que cette présence de la religion, tant qu'elle sera là, dans cette dimension-là, du côté arabe ou du côté juif, est-ce que c'est une hypothèque définitive qui empêchera toujours la paix d'arriver ?
Je pense que c'est une mauvaise lecture de l'enseignement divin. Enfin, vraiment. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas lu comme moi. Pardon de cette prétention. Hein. Je ne connais pas une seule prière en hébreu. Je ne connais pas tout ça. Mais il se trouve que je suis un lecteur.
Un chercheur, au moins.
Oui, enfin, bon. Mmh. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas fait Sciences Po Bordeaux, moi. Mais je vous en prie. Et par contre, j'ai lu. Et par contre, j'ai un rapport personnel avec Dieu. Je prie à ma façon, souvent. Et souviens-toi que tu as été étranger dans la maison d'Égypte. Souviens-toi. Et traite l'ennemi comme un frère. Traite l'autre comme un frère. C'est des moments, c'est des phrases magiques et magnifiques. Et pour moi, Dieu, c'est quand même ça, amour. Même s'il nous a fait bien braire par moments. La Shoah, il n'a pas été d'une efficacité remarquable, hein, Dieu, par rapport à nous. Enfin bon, allez, on lui pardonne. Allez. Mais il ne faut pas arrêter, quoi. Il faudrait qu'il s'arrête un peu et se calme. Et il ne faut pas qu'il pousse les gens en son nom à s'entretuer, parce que je n'admets pas, pardonnez-moi cet énervement, mais je n'admets pas que des enfants juifs et des enfants palestiniens aient comme seul objectif et comme seul plan de vie de se faire la guerre éternellement. J'ai trop de petits neveux, de petites nièces, j'en ai plein en Israël. Je peux pas, j'ai honte, quoi. J'ai honte parce que je me dis, mais quoi, qu'est-ce qu'on leur réserve comme vie?
il faut tuer l'autre, il faut tuer le voisin parce qu'il est arabe, parce qu'il est, et ou sinon c'est lui qui va nous tuer. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est impossible. Donc c'est vrai que je trouve que la paix pour l'instant est compromise là-bas. Elle est, je vois pas comment. Il faudrait vraiment. On va voir ce qui va se passer pour les législatives là en avril. Il y a un type qui a l'air de tenir la corde en ce moment un peu, c'est un certain Gantz, hein, qui était un ancien chef du d'état-major.
Oui, tout à fait. Mais qui sera pas seul à gouverner.
Ben non, avec qui il va s'associer encore. Oui. Mais en tout cas, bon, c'est le seul qui... Oui. C'est une déroute de la gauche collective, comme elle est ici. C'est la gauche, c'est bonne adresse du passé. Bientôt, on va venir visiter des mecs comme moi dans un circuit organisé. Et tiens, ce mec était conseiller de Mitterrand. Ah bon, Mitterrand? Oh, hein, ça va être formidable. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression, oui, bonnes adresses du passé. Vous vous souvenez de cette émission?
Vous racontez que le 18 avril 2018, vous êtes sur la place Rabin à Tel Aviv pour les 70 ans de l'État d'Israël. Oui. Et puis un type
18 avril pour eux.
Oui, alors que voilà, je vous expliquais qu'il y a un jeu de calendrier là qui est tout à fait.
Oui, mais c'est pas sans rien.
Oui, oui. Il y a la fête pour les goy et puis la fête.
Oui, nous c'est le 14 mai. Enfin, nous, voilà. Je sais plus qui je suis moi, mais enfin le 14 mai nous. Et eux ils disent 18 avril. Alors, va comprendre. Et je voyais des gens comme ça hilar sur la place. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Et je demande. Et alors, je suis passé pour un con. Mais quoi, c'est la fête de l'indépendance? Me dit un mec avec des. Ah bon, d'accord, bon, excusez-moi, enfin, bon, je ne comprenais plus rien. Enfin bon, voilà.
Ça dit, c'est assez malin de changer la date pour la fêter, parce que celui qui prépare un attentat pour la fête du 14 mai, il s'est planté à la limite. Mais bon,
vous y voyez là une sorte d'intelligence dont me paraissent dépourvus.
Juste, ce que je vais citer, c'est pas du tout de l'intelligence. Il y a un type qui vous reconnaît dans la foule,
ah oui.
Qui fonce, qui vous dit, il me reconnaît, manifestement, c'est pas pour venir me saluer.
Non.
Et il vient vers vous et il dit. Pas de place pour les Arabes en cette terre que Dieu nous a donnée.
Oui.
Une fois de plus, ça recommence.
Tout le temps.
Ajoutant, oui, je suis raciste. Et alors, rien à foutre. Ce sont ces abrutis d'Arabes qui nous forcent à être racistes. Tu peux le raconter dans ton documentaire. Je m'en fous. Et d'ailleurs, il vous gratifie et il cite un de ses mentors, Baruch Goldstein,
oui.
En partant.
Oui.
Donc, là,
étrange rencontre.
Oui, étrange rencontre. Ça vous amène à dire ceci. En Israël, la nation de 48 et ses hommes nouveaux semblent souvent avoir été remplacés par les fidèles et leurs dieux, celui des juifs extrémistes et celui des islamistes. Et donc là, on voit bien que, d'une certaine façon, tout le monde a intérêt, certains ont intérêt à ce que ça continue.
Oui, c'est pratique de faire la guerre, d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent, bon, d'accord, enfin... on gagne parfois, on perd parfois, mais enfin, on peut continuer comme ça éternellement.
Alors, on va terminer parce que je vous dis, je suis très inquiet. Et vous avez, oui. Page 279, une phrase que vous citez de Noah Kliger. Alors, vous allez nous dire qui est Noah Kliger. C'est évidemment un personnage extraordinaire. Et il dit ceci, enfin, vous rapportez ses propos. La paix, point d'interrogation, quelle paix? Tu parles. Si la paix, c'est juste une histoire de territoire dont il faut se retirer pour avoir la paix, alors... Si c'est juste ça, je n'y crois pas, cela ne suffira pas. Oui. Nous étions aussi à Gaza, nous avons libéré tout Gaza, ça nous a servi à quoi? Et là, c'est terrible, je suis pessimiste, je ne l'étais pas à Auschwitz ou sur l'Exodus.
Oui. Parce qu'il a fait les deux, lui, Auschwitz et l'Exodus.
Vous vous rendez compte? Oui, je suis pessimiste.
Je n'ai jamais été, il me dit.
Oui, je n'ai jamais été pessimiste à Auschwitz.
Il était sûr qu'il allait s'en sortir.
Et sur l'Exodus. Et il dit oui, je suis pessimiste parce que je ne vois pas chez les Palestiniens naître un mouvement sérieux qui oserait vraiment négocier avec nous et stopper le terrorisme comme leurs attaques incessantes. Un des reproches qui est fait
à Israël, ça, vous avez là tous les
un des reproches qui est fait à Israël, c'est de dire c'est au plus fort de négocier avec le plus faible,
oui.
Mais ça ne se
qu'est-ce
fait
que
pas.
Vous en pensez, vous? Mais oui, c'est au plus fort de négocier, oui, bien sûr, c'est plus pratique. Mais ce que dit Noah est très partagé par la population israélienne qui vote Bibi, par exemple.
Il vient mourir, hein.
Oui, il est mort. Il est mort et je l'ai beaucoup aimé, ce type. Enfin, ouais. C'était un boxeur à Auschwitz, vous savez, il était boxeur. Il a écrit son livre d'ailleurs qui s'appelle La boxe ou la vie.
Ouais.
C'est un livre formidable. Il raconte comment les nazis avaient remarqué qu'il était costaud, petit jeune, il n'avait pas 20 ans.
Non.
Et il en prenait match de boxe. Et s'il gagnait les matchs, il mourrait pas. Vous voyez le genre. Et donc, enfin bon, c'est un type formidable. Et il dit, mais où t'as vu des Palestiniens qui ont envie de faire la paix? Alors moi, je suis pas... Je sais pas quoi dire. Vous voyez, c'est implacable, ce genre de truc. C'est ce que fait Bibi, d'une certaine façon. Montre-moi des Palestiniens qui veulent faire la paix. Bon, je sais pas, moi. Il faudrait signer la fin, siffler la fin de la récré.
Alors, à contrario, mais on va terminer sur une note plus optimiste, parce que vous citez la parole de quelqu'un que vous dites, c'est mon quasi-frère, il a été ambassadeur d'Israël en France, c'est Danny Sheck, c'est un personnage absolument remarquable, c'était un des grands ambassadeurs.
C'est mon frère.
Que l'Israël a...
Il m'en veut, il me dit, pourquoi tu dis quasi?
Voilà. Vous dites, voilà, vous citez Danny Sheck, et il dit... il y a eu un moment magique il y a 70 ans qui fut la création de l'État d'Israël. Ce fut donc immense dans la vie des Juifs. 2000 ans après la dernière indépendance juive, hein, c'est vrai que ça nous ramène à la conversation qu'on a eue en ce lieu il y a un mois. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la loge avec Madame la rabbin.
Ah oui, Delphine Orwiller. Hein,
et il ajoute, la paix sera un autre moment magique pour Israël. Alors.
Il parle d'alignement des astres.
C'est ça. Ah ouais, des astres.
Hein, voilà. Des astres, oui.
Et pas du désastre.
Hein. Non.
Des astres.
Hein. Ah non.
Non, 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 mais... est-ce que...
Qu'est-ce qui vous arrive, là, brusquement?
Est-ce que vous partagez cet optimisme, là?
Ben, j'ai le choix, moi. Il faut partager cet optimisme. Enfin, il faut le vouloir, il faut le bâtir, il faut y arriver. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, vous vous rendez compte, l'immensité du monde arabe, bon, et le petit état d'Israël comme ça, enfin, c'est pas possible, c'est pas tenable, je veux dire, vraiment, enfin, je le pense, et on va recommencer, quoi, on va recommencer à tous pleurer et tout ça.
Non, page 186, vous terminez par la prière, par votre prière, vous dites, je sais pas très bien prier, mais je prie depuis longtemps et je prie à ma
186.
Manière. 186 286, ah oui. C'est vraiment la fin de votre texte. Oui. Voilà, voilà ce que vous écrivez. Le mauvais juif, le juif honteux,
c'est moi,
tente de regarder ce Dieu invisible en face, comme ont voulu le faire ses ancêtres, entre l'Égypte regrettée et la terre promise improbable. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui.
L'enfant en moi s'est redressé. J'ai 72 ans. Israël est toujours mon petit frère. Il grandira et aimera ses ennemis d'hier. Est-ce possible? Je l'espère de tout mon cœur et de toutes mes forces. Alors, c'est une prière qui est effectivement teintée et trempée dans un optimisme extrêmement fort.
D'une foi, d'une foi aussi.
D'une foi,
oui. Mais pas seulement optimisme, parce que.
Mais je voulais quand même vous dire que vous avez écrit, et c'est un livre que Serge Moati a écrit il y a 28 ans avec Jean-Claude Raspienjas. C'est un livre qui, à maints égards, est d'une actualité incandescente.
Hélas.
Ça s'appelle La haine antisémite chez Flammarion. Ça a été écrit juste après la première guerre du Golfe, en 92. Et je voulais juste poser la question. Vous pensez qu'il y a moyen d'aimer les ennemis d'Israël et les ennemis des Juifs? Mais comment réagissez-vous à l'augmentation très nombreuse de ceux qui détestent justement les Juifs par antisémitisme?
C'est pas en étant aussi con et minable qu'eux qu'il faut réagir. D'accord? Il faut que la République ici, puisque on est en France, hein, jusqu'à nouvel ordre, la République trouve un système pour être plus sec et plus méchant. Enfin, sévère, pas méchant, sévère, avec ceux qui, sur les réseaux sociaux, inondent de leur haine les réseaux sociaux. Donc, il faut lutter contre la cyber-haine. Ça me paraît très important. On le fait pas assez. On le fait pas assez. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de magistrat dédié à la lutte antisémite, contre l'antisémitisme. Il n'y a pas assez. Donc, mais c'est pas en disant c'est très mal d'être antisémite qu'on peut gagner. Puisque c'est vieux, c'est la seule haine caméléon du monde qui s'est adaptée à toutes les époques, à toutes les cultures, à toutes les... partout. J'ai fait un film, ça, avant ça, il y avait un film, deux films de 90 minutes pour TF1 sur la haine antisémite, que j'ai fait, il y a, comme vous avez eu la gentillesse de le faire remarquer, il y a 28 ans. J'étais plus svelte, plus jeune. Et je suis allé même aller au Japon. Oui. Au Japon. J'ai rencontré des antisémites au Japon. Je faisais les chefs nazis à travers le monde. C'est néo-nazis à travers le monde. Et alors, j'ai dit, mais question à la con, quoi. Comment vous pouvez être antisémite? Quel rapport? Enfin, j'ai pris un air comme ça, vous savez, balourd, comme ça. Bon, ça me va assez bien, l'air balourd. Donc, et ils m'ont dit, mais si, on déteste les juifs. Ah bon? J'ai dit, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont jeté la bombe sur Hiroshima. Alors là, ça m'a scotché. J'avais oublié ce truc-là. C'est comme le meurtre de Dieu. J'avais oublié, donc je ne savais pas. Et j'ai fait le tour du monde comme ça. J'ai fait le tour du monde, vraiment, enfin, beaucoup. Il y avait du fric à l'époque à la télévision. Et j'ai fait le tour du monde. Et je suis allé voir les gens dans les pays de l'Est. Ils me disaient, on déteste les Juifs parce que c'est les capitalistes. Je suis allé à Chicago. J'ai vu le chef du parti nazi américain. J'ai dit, mais pourquoi vous nous détestez tellement? J'étais seul. Hein. Il me disait, parce que c'est les communistes. C'est-à-dire qu'on est toujours l'ennemi. C'est-à-dire, c'est hallucinant. Et quand j'allais seul avec ma caméra, comme ça, et chaque fois, ils pensaient que j'étais du Mossad, c'est pas faux, mais ils me disaient, où sont vos camarades? Je dis, mais quels camarades? J'ai pas de camarades. Pour eux, ils étaient persuadés que j'étais un espion. Parce qu'un mec qui vient seul dans le parti nazi du coin, ça cache un truc. Alors que ça cachait rien du tout. J'étais seul parce qu'on n'avait pas de fric pour être plusieurs. Et donc, c'était hallucinant d'universalité de cette haine entre l'antisémitisme païen, l'antisémitisme chrétien, l'antisémitisme du Moyen-Âge, l'antisémitisme après de l'aurore du XXe siècle, la Shoah, le machin. Enfin bon, je ne vous la fais pas. Mais c'est hallucinant. Et c'est un antisémitisme, assez, une haine plutôt, assez incroyable, parce qu'en général, la haine raciste, c'est t'es différent de moi, t'es noir, ou t'es je sais pas quoi, bon, etc. Ou t'es asiatique, ou t'es ce que tu veux, enfin, t'es différent de moi. Ou t'es le migrant, meurt en Méditerranée, migrant. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'excuse rien, évidemment, en disant ça, je suis indigné. Alors que le juif, il se confond. Simplement, il a le pouvoir et le fric. Macron, la banque Rothschild, vous avez vu les derniers trucs, etc. C'est épouvantable, c'est-à-dire que ça, ils ont le pouvoir, ils ont le fric. C'est ça l'idée. Et ils dirigent le monde en fait en secret. Et putain, si seulement c'était vrai.
On a fini.
On a fini.
Je crois qu'on peut applaudir.